Encore ce matin, on va ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Et on va lire à partir du verset 15. On aurait pu lire un plus long passage, mais je vais vraiment me concentrer sur le texte qu'on va vraiment prendre ce matin. Je crois que le Seigneur va encore agir ce matin, va encore se manifester. Je crois que si le Seigneur a déposé ce texte sur mon cœur, c'est parce qu'il veut encore s'adresser à plusieurs d'entre nous. Alors lisons ensemble ce passage. Éphésiens, chapitre 1, à partir du verset 15. « C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité, et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Prions encore une fois pour présenter ces moments. Seigneur, je te prie encore, Père, de vraiment, Saint Dieu, encore diriger ces moments. Nous savons, Père éternel, que quand nous nous approchons de toi, quand nous commençons à avoir nos cœurs ouverts, quand, Saint Dieu, nous ouvrons ta parole, Saint Dieu, ton esprit est à l'œuvre pour parler à nos cœurs, Saint Dieu. Et je te prie ce matin encore pour que tu puisses disposer les cœurs. Je te prie, Père éternel, pour que tu puisses me donner l'aisance qu'il faut pour pouvoir parler, que tu puisses vraiment encore diriger, Saint Dieu, toutes choses, Père éternel, par ton esprit, afin que nous soyons encore, Saint Dieu, Père éternel, au bénéfice de ta grâce ce matin, que nous puissions encore avoir nos vies transformées et que tu puisses parler à nos cœurs, Père. C'est encore ma prière, Jésus. À toi la gloire, mon Dieu. Amen. L'apôtre Paul va commencer ce passage en disant « J'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. » Alors, avant de voir peut-être un peu plus loin en détail, j'aimerais simplement nous poser cette question-là. Qu'est-ce que le Seigneur, si l'apôtre Paul venait ici, qu'est-ce qu'il entendrait de nous? Qu'est-ce qu'il entendrait de nous? L'apôtre Paul avait commencé un ministère dans l'église d'Éphèse. Pendant 3 ans, il a passé dans cette ville à Éphèse, où il a pu travailler abondamment, où il y a eu une porte ouverte. Et puis après, il est parti, et quand il écrit cette lettre, c'est suite à avoir reçu des nouvelles d'un de ses collaborateurs. Et les nouvelles qu'il a reçues, c'est il a entendu parler de votre foi et de votre amour. À l'église d'Éphèse, il va pouvoir dire ça. Et quand on regarde un peu le détail de cette lettre et quand les théologiens s'accordent pour dire que cette lettre n'était pas destinée uniquement à l'église d'Éphèse, mais était vraiment une lettre un peu pour toute cette région. Et cette lettre, on peut vraiment se l'approprier. Et donc, en commençant ces moments, je me suis posé la question, mais si un serviteur de Dieu, mais si Jésus-Christ venait, qu'est-ce qu'il entendrait parler de ma vie? Comment pourrait-il voir ma vie? Est-ce qu'il voit une vie de foi, une vie d'amour les uns pour les autres? Qu'est-ce qu'il voit de nous? Et c'est mon introduction, simplement cette question, je ne vais pas y répondre, chacun personnellement. Mais cela nous met devant une responsabilité de nous dire, mais où est-ce que j'en suis avec le Seigneur? Où est-ce que j'en suis avec le Seigneur? Comment les autres voient-ils ma vie? Est-ce qu'ils voient une vie de foi ou une vie de découragement? Est-ce que ma vie est une vie qui retrace l'amour de Christ? Ou est-ce que c'est une vie qui est peut-être aigrie ou peut-être toujours un peu toujours à râler? Que dit ma vie? Que dit ma vie? Donc, mon introduction est peut-être un peu particulière, mais j'avais vraiment envie d'insister sur ce point-là et de laisser cette question. Qu'est-ce qu'on entend parler de vous? Qu'entend-on parler de vous? Un peu plus loin dans le passage, et ça va être mes 3 points de ce matin, l'apôtre Paul va faire une prière, Et à la fin de cette prière, il va dire « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité. » Ce matin, nous allons voir ces trois points. J'ai vraiment envie de couper ce partage. J'ai préparé ce partage comme cela, que nous puissions voir déjà l'espérance qui s'attache à son appel. Quand l'apôtre Paul va faire cette prière, il va dire je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Alors, ce matin, j'aimerais déjà nous poser cette question, mais quelle est ton espérance? Quelle est ton espérance? Quand on regarde la parole de Dieu, on voit combien le Seigneur a vraiment prêché la bonne nouvelle. Nous savons que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Il est venu pour apporter la lumière. Il est venu pour donner la vie. Il est venu pour plein de choses. Mais ce matin, laisse-moi te poser cette question. Quelle est ton espérance? As-tu une espérance? Le premier ministère de Jésus-Christ, c'est de pouvoir venir devant toi et te dire, « Mon fils, ma fille, j'ai un plan pour toi. Je suis mort à la croix pour que tu sois pardonné, pour que ta vie puisse être transformée. » Ce que notre frère, le pasteur Bourneuf, nous a dit, c'est que quand il est arrivé là-bas en Casamance, quand il a commencé à prêcher, les gens se sont approchés parce qu'ils avaient besoin d'une espérance. Ils étaient dans la misère, ils étaient dans la tristesse, ils étaient dans les ténèbres, ils étaient dans la peur. Leur avenir était sombre. Et Jésus est venu amener une espérance. Pas un espoir. Vous savez, c'est quoi la différence entre l'espoir et l'espérance? L'espoir, il y a comme quelque chose qu'on aimerait atteindre, mais on n'est pas sûr. Il y a une crainte qui est associée. C'est comme si on pourrait dire, avec un peu de chance, j'obtiendrai cela. Alors que l'espérance est une certitude. L'espérance est une certitude. Et ce matin, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur te dit, si tu écoutes mon appel, si tu écoutes ma voix, si tu viens à moi, je te donnerai une espérance, je te donnerai la vie, je te donnerai une place avec moi. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit, c'est ce que le Seigneur Jésus fait. Il te donne une espérance. Et ce matin, peut-être que tu es rentré dans ce lieu plein de tristesse, plein de peur, plein de crainte, quant à l'avenir, quant à ta vie, parce que tu ne sais pas où tu vas, parce que tu ne sais pas comment tu peux réussir à avoir quelque chose dans ce monde, parce que tout part en dérive. Le Seigneur Jésus, ce matin, te dit, moi, j'ai une espérance pour toi. Moi, je suis capable de venir dans ta vie, de te changer, de te transformer et de te donner une espérance, un refuge sûr, quelque chose qui ne te trompera pas. Peut-être que tu as été trompé, peut-être que tu as été déçu par tes relations, par les personnes que tu as fréquentées, peut-être que tu as été abandonné par ta famille. Mais lui, il te dit, je serai avec toi tous les jours de ta vie jusqu'à ce que je revienne. Et c'est ça notre espérance. Nous avons cette espérance, que le Seigneur Jésus sera toujours avec nous. Nous avons cette espérance que, vraiment, le Seigneur Jésus nous a appelés ses enfants. Quand bien même une mère peut-il abandonner, peut-il oublier l'enfant qu'elle allait? Et même si elle oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. On sait très bien qu'une femme qui a connu la grossesse, qui a souffert l'accouchement et qui a son enfant qui est là, elle donnerait tout pour son enfant. Et grand bien même une circonstance ferait qu'elle pourrait abandonner cet enfant. L'Éternel te dit, lui, il ne t'abandonnera pas. Et c'est ça cette espérance que nous avons. Et ce matin, le premier point que vraiment je voulais nous apporter ce matin, c'est qu'il y a une espérance pour toi. Mais le Seigneur va plus loin, c'est une espérance qui s'attache à son appel. Parce qu'il y a un appel sur ta vie. Le Seigneur Jésus, vous savez ce texte, vous le connaissez, il est là et il va dire, « Mais voilà, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce matin, il y a un appel. Il y a un appel qui est lié à une espérance. Ils sont ensemble, il y a un appel. Le Seigneur Jésus est là et il te dit, « Mais viens à moi, toi qui es fatigué, toi qui es chargé, et je te donnerai du repos. » Et un repos qui est vraiment céleste, un repos qui est extraordinaire, un repos qui est impensable, indescriptible. Venez à moi. Mais il y a cet appel auquel il faut répondre. Il faut venir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce verset nous dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde. Il a tant donné le monde, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. N'est-ce pas une espérance ? N'est-ce pas quelque chose avec lequel on peut se raccrocher ? Ce matin, quiconque croit en lui, quiconque se tourne vers Jésus, quiconque regarde à cette croix, quiconque croit dans ce sacrifice, quiconque place sa foi dans ce sacrifice de Jésus-Christ, a la possibilité d'obtenir la vie éternelle. Quelle grâce ! Nous avons ces exemples dans la parole de Dieu où il y a ce brigand qui est crucifié à côté de Jésus et qui va faire cette simple prière. « Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. » Et le Seigneur Jésus va lui répondre « Aujourd'hui même, je te le dis, tu seras avec moi au paradis. » Cet homme avait une vie mauvaise, il avait commis des crimes et ce qu'il payait sur la croix à ce moment-là, ce n'était pas comme Jésus qui était, lui, juste. Lui, il payait pour ses crimes, mais Dieu l'a pardonné. Parce que quand on regarde à Jésus, quand on crie à lui, il y a cette libération qui peut venir. Il y a cette liberté que nous trouvons en Christ. Il y a vraiment, cette possibilité d'être pardonné de toute notre vie passée. Et ça, il n'y a qu'en Christ que nous pouvons l'obtenir. Éphésiens 4:4 nous dit « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. » Encore une fois, l'apôtre Paul, et quand on regarde dans la parole de Dieu, il y a plein de textes qui nous parlent de cette espérance et de cette vocation que nous avons. La vocation, c'est l'appel, c'est la même chose. Vous avez été appelés à suivre Christ. Et ce matin, peu importe dans quelle situation tu te retrouves, peu importe si tu as accepté pour l'instant de suivre Christ ou si tu n'as pas encore accepté de le suivre, cet appel est là pour tout le monde. Il y a cet appel qui est là. Viens suivre le Seigneur Jésus. Lui qui a tout donné, car il a des choses extraordinaires pour toi. Oui, le Seigneur Jésus nous a dit tellement de choses. Il est le fidèle, il est le juste. Il nous a dit qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. Il nous a dit qu'il s'en va avant nous pour nous préparer une place. Il y a des choses extraordinaires que la parole de Dieu nous dit, afin que nous ayons vraiment cette espérance. La prière de Paul continue et dit... Que vos yeux s'ouvrent sur la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. La richesse de son glorieux héritage. Il y a, dans le monde aujourd'hui, actuellement, il y a des familles entières qui se divisent à cause des héritages. Quand il y a une grosse somme d'argent en jeu, quand il y a beaucoup de biens... Et des fois, il n'y a plus frère, il n'y a plus sœur, il n'y a plus père, il n'y a plus mère. Tout le monde se déchire pour essayer de récupérer cet héritage-là. Et on a pu voir des situations terribles se passer où vraiment les choses sont allées loin. Tout ça à cause d'un héritage. Et le Seigneur Dieu, au travers de sa parole, nous dit qu'il y a une richesse dans son glorieux héritage. Et que ce glorieux héritage est pour nous. Ce matin, je voulais vraiment insister sur cela. On pourrait lire juste un peu avant dans Éphésiens, le verset 11, le verset 1 au verset 11, il nous est dit « En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. » Verset 14, il nous est dit « Il est le gage de notre héritage. » En attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Tout au long de la parole, on va voir qu'il y a un héritage. Romains chapitre 8, on pourrait tellement lire de passages. Romains 8, le verset 16 et le verset 17 nous dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. » Héritier de Dieu et co-héritier de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre part aussi à sa gloire. La parole de Dieu nous dit, c'est encore l'apôtre Paul qui va dire ça à l'église qui se situe à Rome, et il va dire, mais vous êtes enfants de Dieu. Vous êtes enfants de Dieu. Vous savez, il y a cette histoire dans l'Ancien Testament où il y a Abraham qui a eu deux enfants. Il a eu Ismaël et il a eu Isaac. Et il y avoir cette image qui va être donnée que Isaac va être l'enfant de la promesse. C'est de Isaac que Dieu avait dit que toutes les familles de la terre seront bénies. Isaac est vraiment l'enfant de la promesse. Et Ismaël n'est pas l'enfant de la promesse. Mais quand Christ va venir, il va faire cette réconciliation. Et de ce que la promesse qui était pour le peuple d'Israël, cette promesse va être pour tous. Et en Christ, nous sommes un seul corps. En Christ, nous avons été unis. Il va prendre cet exemple aussi de l'olivier franc. Il y a l'olivier qui représentait vraiment le peuple d'Israël qui était béni. Et il va nous donner cette image comme quoi nous avons été greffés sur l'olivier franc. À la base, cette promesse n'était pas pour nous. Mais au travers du sacrifice de Jésus, il est venu nous donner cette promesse. Il est venu nous faire être les enfants de Dieu. Nous avons cette espérance et nous avons ce privilège de pouvoir dire aujourd'hui que si nous marchons avec Christ, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes co-héritiers de Christ. Je ne sais pas si nous réalisons cette grâce que nous avons. Nous sommes co-héritiers de Christ. Ça veut dire quoi, co-héritiers de Christ ? Si on reprend le statut juridique, si tu es co-héritier, ça veut dire que tu hérites comme lui, au même niveau. Et ça veut dire que toutes les promesses qui sont liées à la bénédiction qui sont en Christ sont à notre portée, sont pour nous. Acte 26, verset 18 nous dit « Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés, une part d'héritage avec les saints. » Quand la parole de Dieu a été prononcée, c'est pour que nous puissions recevoir une part d'héritage avec les saints. Le saint, c'était le peuple de Dieu. Et nous avons reçu cette part. Toutes les promesses qui sont dans la parole de Dieu sont pour nous, parce que nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Vous êtes les fils et les filles de Dieu. Galates 3, verset 29. Vous êtes héritiers conformément à la promesse. Galates 4, 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. L'Éternel nous a libérés. Nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes libres, nous sommes en Christ et nous sommes héritiers avec Christ. Alors, laisse-moi te poser cette question, es-tu l'héritier de la promesse ? Est-ce que, tout comme l'apôtre Paul va le dire, est-ce que l'esprit de vie affirme dans ton esprit que tu es enfant de Dieu, que tu es héritier de la promesse, que tu es co-héritier de Christ ? Il y a un plein héritage. Les mots que l'apôtre Paul va utiliser sont particuliers. Une richesse dans son glorieux héritage. Une richesse dans son glorieux héritage. Il ne va pas simplement dire un héritage. Il va dire une richesse et un glorieux héritage. L'héritage que Christ nous a laissé est extraordinaire. Nous avons tout en lui. Regardez, si nous prenons simplement cette parole que Jésus a prononcée sur la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Ça veut dire que tout est accompli. Ça veut dire que dans ta vie, là où il y a un blocage, là où il y a besoin d'une guérison, là où il y a besoin d'une délivrance, là où il y a besoin que l'action de l'Esprit agisse, tout est accompli. Et tout est accompli en Christ. Il a accompli parfaitement la parole de Dieu. Il a accompli parfaitement le plan de Dieu. Il a accompli parfaitement sa mission pour laquelle il était venu sur terre. Tout est accompli. L'héritage qui est devant nous, l'héritage qu'il nous a laissé, est suivant. Et le suivant, la dette a été payée. Ton péché a été pardonné. La dette a été effacée. Le Saint-Esprit nous a été donné. Il vit en nous. Il vit ici, avec nous. Tu as la capacité de devenir le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Nous avons toutes choses avec lui. Nous avons toutes choses en lui. Il nous a donné les dons de l'esprit. Il nous a donné les bénédictions matérielles et spirituelles. Il y a tellement de choses que l'Éternel nous a données. Son héritage est glorieux. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions prendre conscience que l'héritage que nous avons en Christ est un héritage glorieux, un riche héritage et un glorieux héritage. Que nous puissions réaliser cela. Mais c'est pas tout. Paul va encore demander autre chose. Il va vraiment demander que nos yeux puissent s'ouvrir sur l'infinie grandeur de sa puissance. Sur l'infinie grandeur de sa puissance. Comme si ce n'était pas suffisant. Nous avons ce privilège d'avoir une espérance qui s'attache à cet appel que nous avons reçu. Nous avons ce riche et glorieux héritage qui est devant nous. Mais maintenant, l'apôtre Paul va vraiment demander que nos yeux puissent s'ouvrir sur l'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie grandeur de sa puissance. Et la suite du verset va nous donner un exemple précis de c'est quoi la puissance de Dieu. Il nous est dit que, le verset 20, cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. L'Éternel a montré quelle était sa puissance. L'ennemi avait pensé avoir la victoire quand Jésus est mort. Il nous a dit qu'il y a eu des ténèbres sur la terre pendant 3 heures. C'est comme si l'ennemi fêtait sa victoire. Mais il nous a dit que la mort n'a pas pu garder Christ. La mort n'a pas pu garder Christ. Et Dieu va accomplir toute sa puissance en le ressuscitant des morts, en le montrant à ses disciples. Et aujourd'hui, nous savons qu'il est assis sur son trône et qu'il règne. Il est là, glorieux, parce qu'il a obéi pleinement dans ce que Dieu lui avait dit de faire. Et Jésus-Christ est là. Et toute la puissance de Dieu s'est manifestée à ce moment-là. Mais cela nous apprend que ce grand Dieu qui nous a laissé cet héritage, veut encore aujourd'hui manifester cette puissance. Que ce grand Dieu veut encore agir dans ta vie. Que ce grand Dieu veut encore se manifester. Ce matin, l'Éternel veut agir dans ta vie. L'Éternel veut que tu puisses comprendre l'infinie grandeur de sa puissance. Parce que quand tu comprends combien Dieu est grand, de qui as-tu peur? De quoi as-tu peur? Quand tu sais qui est avec toi, quand tu sais que le Dieu grand et véritable est à côté de toi, il vit en toi, il agit en toi, il agit pour toi. L'éternel Dieu, l'éternel des armées, celui qui est capable de ressusciter Christ, il habite en toi. Alors ce matin, j'ai vraiment envie que tu puisses comprendre combien ton Dieu est grand. J'ai vraiment envie que tu puisses comprendre combien ton Dieu est grand. Dans le verset 19, il nous est dit quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité. Je me suis arrêté sur ce mot-là, efficacité. Efficacité, c'est un mot qui est vraiment utilisé uniquement soit pour Dieu, soit pour Satan, pour montrer qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, quelque chose de surnaturel. Et il nous est dit que cette puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force. Ce matin, le Seigneur Jésus a la possibilité d'agir avec efficacité dans ta vie, avec puissance, avec autorité. Et il nous est dit que cette domination qu'il a mis, cette puissance qu'il a déployée en Christ, le verset 20 nous est dit qu'il l'a établie au-dessus de toute domination. De toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il n'y a personne au-dessus de Jésus-Christ. Personne qui est au-dessus du nom de Jésus-Christ. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Et ce matin, nous avons pour chef suprême celui qui a toute autorité. Ce matin, si tu appartiens à Christ, si tu as donné ta vie à Christ, si tu as accepté que ce soit ton Seigneur et ton Sauveur, tu as pour chef suprême celui qui a toute autorité. Celui qui a toute autorité. Il est ton Père. Et ce matin, il a la capacité de pouvoir agir dans ta vie. Alors je ne sais pas avec quel fardeau tu es venu, je ne sais pas ce qui pèse dans ta vie, je ne sais pas quel est le blocage qu'il y a dans ton cœur, je ne sais pas ce qui t'empêche dans ton corps d'avancer, je ne sais pas ce qui t'empêche vraiment d'aller plus loin avec Christ. Mais ce matin, l'Esprit te dit, celui qui a toute autorité est le chef suprême de l'Église, est ton chef, Il est avec toi, il est pour toi. Alors de quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Pourquoi limiterais-tu Dieu? Il est le chef suprême de toute autorité. Aucun autre nom n'est au-dessus de lui. Aucune autre autorité sur cette terre, peu importe le président, peu importe le chef d'armée, peu importe la dénomination démoniaque que tu peux mettre sur ce nom-là, peu importe, il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Et ce matin, l'Esprit avait besoin de te rappeler que ton Dieu est le chef suprême. Alors que tu puisses saisir cette parole et que tu puisses la faire tienne, que tu puisses demander à ce Dieu extraordinaire de venir agir dans ta vie, de venir vraiment faire tomber peut-être ces forteresses, de faire tomber ces raisonnements qu'il y a dans ta tête, de faire tomber ce qui t'empêche de vivre pleinement cette foi, de vivre pleinement cette vie que tu as besoin de vivre en lui. Et de te rappeler toutes ces paroles. Tu as un glorieux héritage en Christ. Tu as une espérance. Et tu as ce Dieu qui a une infinie grandeur, une infinie puissance. Alors que tu puisses te rappeler cela. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez bénis.